caresse de l'air que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dans les bras on sut barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
Bonsoir, Léo Ferré interprétait Louis Aragon sur sa musique à lui, donc Elsa. Elsa pour Elsa Triolet, bien sûr, pour cette quatrième émission que nous consacrons avec Jean Knopf et Maria Berlioz. Et Elsa, ce soir, a une date un peu particulière, puisque le 16 juin est justement la date de son décès en 1970. Donc 44 ans après, nous nous retrouvons ce soir pour évoquer sa mémoire. On parlera encore aujourd'hui d'une période bien antérieure à sa mort, celle de sa jeunesse, mais on peut peut-être quand même dire quelque chose. Sujet.
Bonsoir d'abord à tous, ravi de vous retrouver. La première des choses que nous pourrions dire à propos d'Elsa, c'est qu'elle a évoqué bien sûr tant d'écritures, tant d'écrits, tant de poèmes à son sujet, et puis un beau jour, eh bien tout cela s'est arrêté, mais les textes qui ont procuré l'envie d'écrire de si belles choses à Aragon, resteront et certains les vivront encore. Elsa nous a quittés, bien sûr, le 16 juin. C'était une dame qui avait eu bien souvent des troubles cardiaques depuis de longues années. Faut se rappeler qu'à l'époque, la chirurgie cardiaque était moins connue, moins développée qu'aujourd'hui. Donc, elle a fait plusieurs malaises, bien sûr. Et puis, elle a toujours combattu comme vous la connaissez et comme on vous la décrira encore. Et elle a fini par écrire ses deux derniers livres en 1969. Ils ont paru, dont Le Rossignol se tait à l'aube. Et là, elle décrivait sa propre mort. À ce propos, au grand désespoir d'Aragon, ils trouvaient, et puis ils ont eu un étrange dialogue avec Elsa ce matin du 16 juin 1970. Aragon lui reprochait de ne jamais lui avoir dit qu'elle l'aimait. Et je pense que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il faudrait le dire quand il est temps. Mais elle s'est bien rattrapée, puisqu'elle lui dit « Alors, tu sais très bien que ce n'est pas mon genre, mais enfin, au bout du compte, je vais te le dire. Oui, je t'aime. C'était Elsa Triolet.
Voilà, donc elle est décédée, encore une fois, ce 16 juin 1970, dans un lieu qui est désormais le symbole, leur symbole, puisque c'est le au moulin de Saint-Arnoult en Yvelines. Aragon avait acheté ce moulin avec ses droits d'auteur et je crois qu'à l'époque, c'était dans les années 50, il était privé de ses droits civiques et il avait acheté le moulin au nom d'Elsa. Et il disait toujours ce coin de terre française d'Elsa. Et il séjournait au beau jour l'été. Et en juin, elle est décédée. Pour Aragon, ça a été terrible. Le médecin qui est venu constater le décès a vu un Aragon complètement incrédule devant ce. Et Aragon, rappelons-le, était médecin. Hein. Complètement incrédule devant le décès d'Elsa, et Aragon lui demandait de faire une piqûre à tout prix pour qu'elle pour la faire. Elle avait eu souvent des malaises cardiaques, et donc pour faire repartir la machine. Et bon, évidemment, Elsa était décédée. Alors il y a eu la dépouille d'Elsa a été exposée dans le hall du quotidien L'Humanité, qui se trouvait à l'époque boulevard Poissonnière, hein, dans le 10e arrondissement à Paris. Et faut préciser que Elsa n'a jamais été communiste. Mais le Parti communiste, malgré, on parlera plus tard de son roman Le Monument, hein, qui avait suscité pas mal de discussions à l'intérieur du parti, mais le Parti communiste a toujours été très respectueux à l'égard d'Elsa. Et je voudrais quand même rappeler que c'est elle qui a écrit cette expression qui a été ô combien reprise par le Parti communiste après la guerre, le Parti des fusillés. C'est elle qui est l'auteur de cette expression. Et donc le Parti lui a rendu un hommage assez solennel qui a eu lieu le 19 juin. Et les deux orateurs qui se sont exprimés, c'était Jean-Louis Barrault qui avait été un temps, il avait été viré par Malraux en 68, mais il avait été directeur du Théâtre National de l'Odéon, qui s'appelait à l'époque Théâtre de France. Et Barrault était très proche du couple Aragon-Triolet. Et le deuxième orateur, c'est Pablo Neruda, qui qu'Elsa et Aragon connaissaient depuis leur voyage en soutien à l'Espagne républicaine. Et à cette époque, Neruda était ambassadeur du Chili à Madrid. Et c'est là qu'ils ont fait connaissance. Et puis Aragon a également beaucoup écrit de poèmes en soutien à son ami Neruda. Et Neruda, dans son éloge funèbre, a une belle expression que je voudrais citer ce soir, une épée aux yeux bleus. Voilà. Et donc, Aragon a obtenu, parce qu'apparemment c'est une démarche assez compliquée, a obtenu qu'Elsa soit enterrée, lui il le sera également, au moulin. 17 septembre, la cérémonie a eu lieu le 17 septembre. Et le 12 décembre, c'est Rostropovitch, qui était un de leurs amis, qui est venu jouer une sarabande de Bach, qui, pendant un temps, parce que je crois que les voisins se sont plaints et maintenant ça n'a plus lieu, pendant un temps, quand on venait au moulin, de l'heure de l'ouverture du moulin à la fermeture le soir, on entendait Rostropovitch. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas une musique follement gay. Et les voisins se sont plaints. Donc, enfin, moi, je sais que la dernière fois que j'y suis allé, il y avait plus Rostropovitch. Mais je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire aux auditeurs que la visite au Moulin, c'est un lieu extrêmement agréable, qui est ouvert donc au printemps et en été, hein, il est fermé en hiver. Et vraiment, c'est complètement habité par Aragon et Elsa. D'ailleurs, je crois que dans la chambre d'Elsa, la pendule est toujours arrêtée à 16h ou 17h, qui est l'heure de la mort d'Elsa. Voilà, donc aujourd'hui, 16 juin, même si on anticipe, hein, puisqu'on va revenir, en 1921, je pense qu'on peut quand même avoir une pensée pour elle. Donc il y a 44 ans, c'est le temps, c'est banal, mais le temps passe. Voilà.
1921 maintenant.
Alors 1921, allez, oui.
Oui. Oui, on est en 1921. Elsa est séparée d'André Triolet. Eh bien, elle se rend à Londres pour retrouver sa mère qui travaille. Et puis, Elsa travaille également là-bas chez un architecte. Mais
l'architecte d'ailleurs.
Oui, oui, elle a fait une. Elle a fait une étude. Oui, elle a eu ses études. Elle a un diplôme d'architecte, Elsa Triolet. Et donc, elle y travaille, mais finalement, elle est très peu payée. Elle se plaindra d'ailleurs beaucoup de tout ça. Mais elle vit une période difficile, là. Donc, elle va y rester une année. Et elle écrira « Le jour, je travaillais. Le soir, je dansais. Je m'ébroue. Je lèche mes blessures. » En fait, moralement, ça ne va pas très fort. Elle se sent fatiguée, peu énergique, déprimée. Et elle dira même « C'est l'ennui d'André qui m'a vaincue. » Et alors, donc, après cette année passée en Angleterre, elle ira à Berlin. Et là, je crois qu'elle va retrouver quand même ses amis artistes. Jean, tu nous en parles.
Oui, parce que la situation dans la jeune Union soviétique pendant la guerre civile est quand même extrêmement difficile. Hein. Beaucoup d'intellectuels russes se sont exilés à Berlin. Je crois d'ailleurs, j'ai noté ça quelque part, qu'ils sont 300 000.
300 000.
Ils sont 300 000, donc c'est tout de même énorme. Et ce qu'il faut toujours comprendre quand on parle d'Elsa, c'est qu'elle a une passion pour la France. Elle choisira d'ailleurs, on le verra au moment de la résistance, d'être vraiment aux côtés de la France, hein. Mais en même temps, elle a toujours cette perpétuelle nostalgie de la Russie. Et d'ailleurs, leur voyage incessant, et dans les années 30, par exemple, ils vont passer quasiment un an, à un moment, en Union soviétique. Donc c'est quelque chose de permanent. Alors, et puis la nostalgie de sa langue.
Oui.
On est en 1922, donc pour l'instant, elle écrit pas. C'est à la fin des années 30. Qu'elle va décider d'écrire en français, mais pour l'instant, bon, déjà elle est pas encore écrivain, et puis elle est russe, même si par sa nourrice elle est bilingue, quoi, hein. Je sais pas précisément à cette époque-là quel est son niveau de français, mais enfin elle parle très bien français et allemand d'ailleurs également. Donc là-bas, elle va retrouver toute une colonie de Russes, et en premier lieu, sa sœur Lily, Lily Brick dont on a parlé, son mari donc Ossip Brick, le grand théoricien de la littérature, son amant donc Mayakovsky, on retrouve toujours Mayakovsky. Donc avec qui elle entretient une liaison passionnée, avec il y a des hauts, il y a des bas, il y a d'ailleurs beaucoup plus de bas que de hauts, c'est orageux. Enfin, c'est tout Mayakovsky, ça. Hein. Mais il y a également, on va en reparler. Il y a surtout Roman Jakobson. Et Roman Jakobson, donc qui est le grand linguiste. Un des fondateurs de la linguistique moderne avec Saussure, Jakobson, qui est amoureux, qui a toujours été amoureux d'Elsa. D'ailleurs, les Kagan et les Jakobson étaient voisins et amis, et les deux mères, quand elles étaient enceintes, avait dit, si c'est un garçon et si c'est une fille, on va les marier ensemble. C'était décidé avant même leur naissance. Bon, ça se fera jamais, mais je crois qu'on l'avait dit dans la deuxième émission. Jacobson avait demandé en 1916, donc ils avaient 20 ans, il l'avait demandé en mariage. Elle avait refusé. Bon, c'est d'ailleurs curieux parce que Lily Marcoux, par exemple, qui a écrit sa biographie d'Elsa, prétend, bon, ceci dit, je suis un peu sceptique comme ça de cette décision, que Elsa a toujours décidé d'épouser un Français. Bon. Alors c'est vrai, elle a épousé André Triolet, après Louis Aragon. Bon, ceci dit, je suis pas sûr quand même que épouser une nationalité, ce soit forcément un... Alors bon, on reviendra après sur Jacobson. Il y a également quelqu'un d'autre dont on va parler, parce que ça va être important pour sa carrière d'écrivain. C'est également un écrivain, théoricien de la littérature. C'est un dénommé Victor Shklovsky. Ça, c'est un vrai russe. Et puis, il y a également Boris Pasternak, le grand écrivain russe. Et surtout, alors lui, c'est le doyen, hein, puisqu'il est beaucoup plus âgé qu'eux. Il a une trentaine d'années de plus qu'eux. C'est Maxime Gorki, qui est vraiment le grand écrivain russe, soutien de la révolution soviétique, mais qui vit à Berlin. Et donc, Elsa va retrouver tous ces gens-là. Donc, elle se baigne dans cette atmosphère russe. Elle retrouve sa langue. Et puis, bon, ils font la fête. Bon, parce qu'ils s'amusent quand même beaucoup là-bas. Hein. Et puis, également, elle fera connaissance de quelqu'un, bon, dont on va pas beaucoup parler ce soir, mais qu'on retrouvera au fil des émissions. Parce que ça a été vraiment un compagnon de route et d'Aragon et d'Elsa. C'est Ilya Ehrenburg. Qui est journaliste surtout, mais qui a écrit également des ouvrages, notamment des ouvrages dans lesquels on peut puiser pas mal d'informations. Et c'est là où elle va faire connaissance d'Ehrenburg, voilà, pour cette atmosphère de Berlin.
Vous venez d'entendre un extrait de la musique de Alban Berg, un extrait de Lulu, hein, le Rondo Andante hymne, qui a comme rapport avec le sujet et les périodes qu'on aborde ce soir que d'avoir été écrite cette musique à peu près dans les années 20, à peu près dans les périodes qu'on est en train d'évoquer. Je vous propose de retrouver donc Maria Berlioz et Jean Knopf pour continuer d'évoquer la présence de Elsa Triolet dans les années 22, 23, 24 à Berlin.
Oui, jusqu'en 24, oui. Donc la première figure qu'on voudrait évoquer, c'est celle de Jacobson, donc ce grand linguiste fondateur de la linguistique moderne. Alors deux mots sur lui, bon, on étudie, c'est pas avec Jacobson qu'on commence à étudier la langue, hein. On a étudié la langue, ben, les aspects sémantiques, la signification des mots, l'étymologie des mots, ces arbres généalogiques des langues, un petit peu, bon. Mais ce que Jacobson va mettre en valeur, donc il s'intéresse à la langue et également à la littérature, hein. Tous ces gens-là sont aujourd'hui un linguiste, bon, c'est un technicien de la langue. Mais à l'époque, Jacobson, Shklovsky, Mayakovsky, ils font tous partie du même groupe et ils s'intéressent à la littérature et à l'art en général. Et Jacobson, lui, va mettre en valeur la langue en tant qu'instrument de communication. Alors ça, c'est... Aujourd'hui, on dit que c'est une banalité de dire qu'on est dans le siècle de la communication. Alors Jacobson, il va distinguer dans la langue, il va distinguer six fonctions. La fonction expressive, c'est celle du locuteur, celui qui parle. Alors, par exemple, un exemple qu'on peut donner... on prend un acteur comme Louis de Funès. Louis de Funès, tout son talent, il est dans sa fonction expressive, hein, les grimaces, etc. Alors, à l'autre bout, il y a celui qui regarde, et là, c'est la fonction impressive. Si Louis de Funès me fait rire, bon, ben, c'est la fonction impressive. Alors ensuite, on a la fonction conative. Alors la fonction conative, c'est celle qui vise à agir sur l'interlocuteur. Donc j'ai un contact avec l'interlocuteur. Si par exemple, il y a un mur qui nous sépare et qui m'entend pas, bon, il y a plus de Jacobson a mis en évidence la fonction phatique. La fonction phatique, c'est par exemple ce qu'on trouve dans le langage publicitaire. Hein, je suis le meilleur produit, achetez-moi. Hein, je suis le meilleur homme politique, votez pour moi. Hein, là, c'est aussi ce qui souvent dénature malheureusement un peu la politique quand on la ramène à la publicité. Et demain, on rase gratis, quoi. Hein. Bon, ou mon ennemi, c'est la finance, par exemple. Et ensuite, on a la fonction métalinguistique, alors qui est le propre du langage humain, c'est-à-dire que je ne connais pas la signification d'un mot. Le langage humain a, à la différence du langage animal, a la capacité, mais on a un dictionnaire. Et on va voir la signification de ce mot. Et puis enfin, la dernière fonction que Jacobson met en valeur, et là ça rejoint la théorie de la littérature, c'est la fonction poétique. Et la fonction poétique, c'est que on peut employer, il y a mille manières de dire, je sais pas, à quelqu'un qu'on l'aime, parce que on peut, hein, toute la poésie c'est ça, on va décliner les mille et une façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime, parce que on remplace un mot par un autre, etc., etc. Ça, c'est la fonction poétique du langage. Alors Jacobson, lui, il travaille également sur la théorie de la littérature, hein. C'est par exemple quelqu'un qui a fait une admirable analyse des chats de Baudelaire. Mais à l'époque, et ça je pense ça a pas mal changé aujourd'hui, la linguistique en elle-même, bon, elle est en train de se constituer en tant que science, mais elle n'est pas séparée de la littérature. Il hein. y a une osmose entre les deux. Et donc Jacobson, c'est... on dit que... Moi je me souviens d'ailleurs l'avoir vu chez Pivot à l'époque, à Apostrophe, il parlait un français absolument parfait. Et je crois que, enfin, j'ai lu que Jacobson, il dominait l'ensemble des langues romanes, l'ensemble des langues slaves et l'ensemble des langues germaniques. Donc, il devait parler une trentaine de langues à peu près.
Ça laisse rêveur.
Enfin, il y a des gens, Claude Agege, par exemple, aujourd'hui, il est assez, assez étonnant aussi de ce point de vue. Donc, avec Elsa, ils ont une relation, quand même une relation très forte. Surtout lui, d'ailleurs. Hein.
Oui, au fond, Elsa Triolet a toujours gardé un lien intellectuel avec Roman Jakobson. Quant à lui, par contre, il a toujours été amoureux. Et il écrit, par exemple, le 17 septembre 1920...
Alors qu'elle est toujours avec André Triolet.
Et oui, hein? Oui, oui, précisons-le. Il lui écrit « Tu m'as tiré de mon enfance par les oreilles, Eleshka. J'ai pleuré, cela va de soi. Mais tu m'en as tiré. Et je te suis infiniment redevable de tant de choses. C'est toi qui, en guise d'adieu, m'as appris. Un Roma faible, c'est un numéro perdant. Et je suis devenu fort. » C'est seulement maintenant que je comprends quelle fille vraiment remarquable tu es. Et puis le 12 décembre, toujours 1920, il lui écrit « Tu m'es très proche, indispensable ». Et si on revient un peu en arrière, en 1918, Jakobson écrivait ses poèmes. « Nous sommes tous attirés par ta beauté. Mais qui est ton élu ? C'est là la question. Ah, Elsa ! Elsa, en t'aimant jusqu'à l'infini, je te donne un conseil. Vis sans souci, ne t'en va pas. Reste chez toi et aime l'étudiant Roma. »
Oui, Roma, c'était ça.
C'était, oui,
et d'ailleurs, quand,
nom pour dire Roma.
Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Quand Elsa s'est entêtée à épouser André Triolet,
oui.
Lily lui avait dit « Mais pourquoi tu n'épouses pas Roma ?» Roma était vraiment le promis d'Elsa.
Alors, Roman et Elsa auront une liaison en 1922 et ils ne se perdront jamais complètement de vue.
Une liaison très rapide.
Très rapide, oui,
en
oui.
En octobre
22.
Oui.
Voilà. Mais par contre, il sera installé avec Sonia Nikolaïevna Feldman, qu'il épousera plus tard.
Oui, ce sera sa première femme. Oui.
Oui.
Voilà pour Jakobson, mais il y a un autre,
oui.
Il y a un autre personnage, alors oui. Qui va être beaucoup plus décisif sur le plan de la carrière littéraire d'Elsa.
Oui. Oui.
C'est Victor Shklovsky.
autre extrait de Lulu, toujours d'Alban Berg, c'est du cinquième mouvement. Ce que je vous ai pas dit, c'est l'interprétation. C'est le New York Philharmonic sous la direction de Boulez. Enregistrement déjà un petit peu ancien maintenant. Nous retrouvons Elsa Triolet.
Alors, deux mots sur ce Victor Shklovsky qui est bien moins connu que Jacobson. Ses dates, déjà, il est né en 1893, donc il a 3 ans de plus qu'Elsa, et il est décédé en 1984. C'est un écrivain, un critique, un théoricien du formalisme russe, et je reviens quand même sur l'influence de cette école du formalisme russe, qui a eu une très grande influence dans les années 60. Tous ceux qui s'intéressaient à la théorie de la littérature dans les années 60, et en particulier à la revue Telle Quelle, qui avait une grande influence dans les milieux d'avant-garde, et qui était une revue qui avait été fondée par Philippe Solers et Julia Kristeva. Donc, qui était une revue qui naviguait entre la linguistique, la psychanalyse. Enfin, il y avait une très très forte émulation. Puis également autour de la nouvelle critique. Et les formalistes russes étaient une référence obligée. Tout ça étant orchestré d'ailleurs par un grand personnage qui était, entre autres, celui que représentait Roland Barthes. Alors, Shklovsky, et il n'est pas le seul, il tombe amoureux fou d'Elsa. Alors, elle est sensible à cet amour, bon, mais à sa manière à elle, c'est-à-dire, elle est sensible et puis en même temps, elle n'est pas sensible. Et ils vont avoir un échange de lettres. Et que Shklovsky va publier sous le titre suivant, Zoo, lettre qui ne parle pas d'amour, ou la troisième Héloïse. Donc évidemment, la troisième Héloïse, bon, il y a référence au récit Héloïse et Abélard, et puis surtout référence à la deuxième Héloïse, c'est Julie ou la nouvelle Héloïse de Rousseau, qui compte les amours contrariés de Julie et Saint-Preux, qui est le précepteur de Julie. Et donc, il va y avoir 29 lettres. C'est un ouvrage assez court. Elsa, alors qui figure toujours sous le nom d'Alia, Elsa écrit 6 lettres. Et on va vous en lire quelques-unes, dont la première qui est écrite par donc Alia Elsa, qui est écrite à Moscou pour sa sœur Lily. Alors à chaque fois il y a une présentation. Je lis la présentation. Elle est écrite par une femme de Berlin à Moscou à sa sœur. Sa sœur est très belle. Elle a des yeux lumineux, la lettre sert d'introduction, écoutez la voix paisible.
Alors, Maria. Prenons une voix paisible. Alors, je me souviens, je me suis accommodée du nouvel appartement. Je soupçonne ma propriétaire d'être une ci-devant femme légère. Aussi n'est-elle ni méchante, ni tracassière. Dans mon quartier, on ne parle qu'allemand. D'où qu'on vienne, on est forcé de passer sous 12 ponts métalliques. C'est une région où l'on ne va pas sans en avoir vraiment besoin. Mes amis du Kurfürstendamm ne monteront pas me voir en passant. Ce sont toujours les mêmes qui sont auprès de moi et ne quittent pas leur poste. Le troisième s'est définitivement voué à moi. Je le considère comme la plus importante de mes décorations, bien que je sache qu'il est amoureux facilement. Il m'écrit tous les jours une ou deux lettres. Il me les apporte lui-même, s'installe sagement à côté de moi et attend que je les lise. Le premier m'envoie encore des fleurs, mais devient de plus en plus chagrin. le deuxième, celui à qui tu as eu l'imprudence de me confier, continue à dire avec insistance qu'il m'aime. Il exige qu'en échange, je m'adresse à lui avec tous mes ennuis. Quel roublard! Actuellement, le tarif des taxis se multiplie par 5 000. Bien que la vie soit paisible ici, j'ai la nostalgie de Londres, la nostalgie de la solitude. Une existence au rythme régulier, d'un travail du matin au soir, de la baignoire à des danses avec des jeunes gens aimables. Ici, j'en ai perdu l'habitude. Et il y a trop de malheurs tout autour pour qu'on puisse les oublier, ne fût-ce qu'un instant. Raconte-moi vite tout ce qui t'arrive. Je t'embrasse, ma douce, ma plus belle. Merci une fois encore pour ton amour et ta gentillesse.
Donc l'intérêt de cette première lettre, c'est de situer un petit peu le cadre de la vie d'Elsa à Berlin, ses fréquentations, puis également son état d'esprit, hein, cette nostalgie de Londres, alors qu'elle nous a dit précédemment qu'à Londres, c'était l'ennui d'André Triolet, enfin donc c'était pas... C'est un peu cet état d'esprit permanent qui est celui d'Elsa, dont on a déjà parlé lorsqu'elle était à Paris, à Londres, à Berlin. Alors, Victor Shklovsky est, lui, amoureux fou d'Elsa, et la deuxième lettre, la première lettre était datée du 7 février, du 3 février, pardon, et la deuxième lettre, le 4 février, donc c'est quasi par retour du courrier. J'en lis juste le début qui montre bien combien Shklovsky est amoureux d'elle. « Chère Alia, cela fait déjà 2 jours que je ne te vois pas. » Donc il fait partie de ceux qui vont la voir dans la lettre précédente. « J'appelle. » Le téléphone gémit. Je comprends que je viens de marcher sur quelqu'un. Je finis par t'avoir au bout du fil. Tu es prise le jour, le soir. J'écris de nouveau. Je t'aime beaucoup. Et là, il y a cette phrase que je trouve magnifique. Tu es la ville que j'habite. Tu es le nom du mois et du jour. Voilà, ça, si c'est pas une déclaration. Alors ensuite, il y a une troisième lettre
qu'il y a écrit à Shklovsky.
Non, c'est Alia.
C'est la Alia, oui, lettre, c'est Alia. Qui écrit.
Oui, qui écrit à Shklovsky, oui.
Oui. Mon gentil, mon mien, ne me parle plus d'amour. Il ne faut pas. Je suis très fatiguée. Comme tu l'as dit toi-même, je suis à bout de souffle. Nous sommes séparés par notre vie quotidienne. Je ne t'aime pas et ne t'aimerai jamais. J'ai peur de ton amour. Tu me blesseras un jour parce que tu m'aimes tant aujourd'hui. Ne gémis pas si fort. Tu es bien quand même. Ne me fais pas peur. Tu me connaissais si bien et tu fais tout pour m'effrayer, me repousser. Peut-être ton amour est-il grand, mais il n'est pas joyeux. J'ai besoin de toi. Tu sais m'extraire de moi-même. Ne me parle pas uniquement de ton amour. Ne me fais pas au téléphone des scènes sauvages. Ne te déchaîne pas. Tu sais empoisonner mes journées. J'ai besoin de liberté, que personne n'ose même rien me demander. Et toi, tu exiges de moi tout mon temps. Sois léger, sinon tu manqueras ton amour. D'un jour à l'autre, tu deviens plus triste. Mon chéri, tu ferais bien d'aller dans une maison de repos. Je t'écris de mon lit parce qu'hier j'ai dansé tard. À présent, je vais prendre un bain. Peut-être nous verrons-nous aujourd'hui.
Alors, dans la quatrième lettre, Shklovsky, qui est quand même un amoureux très soumis, voilà ce qu'il écrit. Je ne te parlerai pas d'amour, je te parlerai seulement du temps qu'il fait. Aujourd'hui, à Berlin, il a fait beau temps. Ciel bleu et soleil par-dessus les maisons. Il regarde directement à l'intérieur de la pension Marsalin, dans la chambre d'Eichenwald. Je vis dans l'autre partie de l'appartement. Il fait beau dehors, il fait frais. Cette année, il n'y a presque pas eu de neige à Berlin. Aujourd'hui, c'est le 5 février. Toujours pas question d'amour. Voilà, donc il y a aussi en même temps pas mal d'ironie de sa part. Alors la correspondance continue. Et donc la huitième lettre, qui est la troisième lettre d'Alia. Il y a très peu de lettres d'Alia, il y a beaucoup plus de...
Et donc, je t'écris, gentil petit tatar. Merci pour les fleurs. La pièce en est toute parfumée, embaumée. Je n'allais pas me coucher parce que cela me faisait de la peine de les quitter. Dans cette pièce absurde, avec ses colonnes, ses armes, un hibou empaillé, je me sens chez moi. J'y possède la chaleur, le parfum et le silence. Je les emporte comme un reflet dans le miroir. Je m'en vais et ils n'y sont plus. Je reviens, je jette un regard et les voilà à nouveau. On n'arrive pas à croire que c'est grâce à soi-même qu'ils vivent dans le miroir. En ce moment, j'ai par-dessus toute envie que ce soit l'été, que tout ce qui fut ne soit plus, que je sois jeune et forte. Alors, d'un mélange de crocodile et d'enfant, il ne resterait que l'enfant et je serais heureuse. Je ne suis pas une femme fatale, je suis Alia, rose et potelée, c'est tout. Je t'embrasse, je dors.
Et alors donc, il y a eu une autre lettre qui évoque Tahiti, mais surtout la dernière lettre d'Alia, qui est la 28e du recueil, donc c'est un recueil qui en compte 29, et qui est une lettre assez dure, quoi, hein. Par rapport à cette relation.
Tu violes l'accord. Tu m'écris 2 lettres par jour. Il y en a déjà beaucoup. J'en ai bourré le tiroir de mon bureau, inondé mes poches et mon sac. Tu dis savoir comment est fait Don Quichotte, et tu ne sais pas faire une lettre d'amour. Tu deviens de plus en plus odieux. Et lorsque tu écris amoureusement, tu te noies dans le lyrisme.
Voilà. Alors pourquoi parler de ce petit recueil, hein? Le livre a été traduit par Vladimir Posner il y a une vingtaine d'années. Il y a plus que ça, c'était en 1963, donc ça fait 50 ans.
Oui, ça fait
ans.
Un peu plus. Ouais.
Et puis il vient d'être retraduit récemment. C'est un petit bouquin. Un petit bouquin qui fait 114 pages, hein. Il y a 29 lettres, des lettres très courtes. Alors pourquoi en parler? Ben parce que il va être décisif dans la carrière d'Elsa. C'est que Victor Shklovsky, qui a besoin de reconnaissance, qui est encore un jeune écrivain à l'époque, il porte son recueil à Gorky. Donc Gorky, l'auteur des Bas-fonds, l'auteur du récit Ma mère. Gorky, pour le situer peut-être, c'est 1868. Hein, donc oui, il a 30 ans de plus qu'eux. Et il est décédé en 1936. D'ailleurs, il y a une page célèbre d'Aragon dans La Mise à mort qui raconte les obsèques de Gorky. Donc Gorky, c'est le grand romancier, c'est la grande référence vivant, hein, puisque Tolstoï, Tchekhov sont décédés. Et Victor Shklovsky va trouver Gorky en lui demandant ce qu'il pense de ce zoo, l'être qui ne parle pas d'amour ou la troisième Héloïse. Et Gorky dit à Shklovsky, qui va pas en être très content finalement, il va dire « Oh mais la jeune femme qui écrit, qui est-elle? Faut me l'envoyer, elle a vraiment beaucoup de talent. » Et donc Elsa rend visite à Gorky, qui habite dans la banlieue berlinoise, et Gorky va inciter Elsa à écrire. Et c'est ainsi que Elsa va se lancer dans l'écriture de son premier vrai récit, qui est Fraise des Bois, donc ce récit qui parle de son enfance, qui paraîtra en 1926. Puis ensuite, la suite, qui évoquera davantage son séjour à Paris, dont on parlera la prochaine fois, qui s'appelle Camouflage, qui lui paraîtra en 1928. Je précise, ce sont des récits plus ou moins autobiographiques, même s'il y a beaucoup de fiction quand même, hein, c'est de l'autobiographie fiction, quoi, hein. Et puis, sans oublier, ben, celui qu'on a abondamment présenté la dernière fois, à Tahiti, hein, donc, qui est le récit, donc, de son séjour tahitien avec André Triolet. Et ce sont donc les trois romans que qu'Elsa va écrire en russe. Je précise d'ailleurs que Camouflage sera traduit en français seulement après le décès d'Elsa. C'est Aragon qui tiendra absolument à inclure Fraise des Bois et Camouflage dans la série des œuvres romanesques croisées. Je crois que c'est le tome 39. Alors que Elsa a jamais vu le tome 39 paraître, et donc il sera traduit en français. Cette rencontre avec Gorky, elle va être décisive, puisque c'est lui qui va absolument la convaincre de son talent littéraire, et l'admiration qu'Elsa aura pour Gorky ne se démentira jamais, puisque Aragon raconte justement dans La Mise à mort que au moment de la mort de Gorky, bon, il a une longue agonie, ils sont convoqués, mais ils arrivent trop tard, Gorky, et puis apparemment Aragon laisse entendre qu'on les empêche justement d'aller jusqu'à Gorky, enfin c'est parce qu'on a aussi dit que peut-être il n'était pas mort de mort si naturelle que ça, enfin bon, c'est toute l'ambiance de l'Union soviétique de ces années, noires, quoi, quand même. Voilà, donc cette rencontre de Gorky est absolument décisive. Pour terminer avec ce séjour berlinois d'Elsa, qui se terminera donc en 1924, et la prochaine fois donc on la retrouvera à Paris, puisque c'est à partir de 1924 qu'elle s'installera à Paris. Bon, ben évoquons tout de même d'autres relations d'Elsa, et comme toujours, ce sont des relations avec des gens connus, hein. Et notamment avec le peintre Ivan Pouni, qui était né en 1894 et qui va décéder en 1956, et qui s'exilera à Paris et se fera appeler Jean Pougny. C'est un peintre qui a été apprécié et assez connu à cette époque. Et puis également, elle a eu également une autre liaison avec un éditeur cette fois, Abraham Wisniak, 1895-1944, et lui, il est mort en déportation à Auschwitz. Alors si on revient un peu, parce qu'on peut, on peut jamais complètement séparer Elsa de sa sœur Lily, hein. Elles ont été en rivalité permanente, Bavia notamment, leur grand homme à toutes les deux, c'est-à-dire Maïakovski, tout du moins pour Elsa, le grand homme de cette période. Et Lily, qui a également une vie assez libre, hein, parce que, par exemple, ce qui est tout de même d'assez surprenant, c'est que, par exemple, ils vivent dans des lieux extrêmement exigus. Hein. Il y a, par exemple, une description d'un appartement, je sais pas, qui fait peut-être 30 mètres carrés, et là, il y a Lily, il y a Ossip qui s'est trouvé une amie que d'ailleurs Lily tolère pas très bien, enfin bon, et Maïakovski, enfin ils vivent à quatre là-dedans et tout le monde cohabite, mais enfin il y a tout de même beaucoup d'orages, hein, et notamment parce que Lily tombe amoureuse d'un personnage qui est un proche de Lénine. J'ai cherché, malheureusement, j'ai trouvé aucune référence sur Internet. Un dénommé Tobinson, qui est un personnage politique important, qui tombe follement amoureux de Lily. C'est-à-dire que Maïakovski tolérait les relations épisodiques de Lily, mais là, c'est du sérieux. Et Maïakovski multiplie les scènes de jalousie, et Maïakovski est un personnage qui peut être violent, hein, bon. Et il écrit un très très beau texte qui s'appelle « J'aime ». Moi, on m'a viré dès la cinquième classe et je suis passé d'une prison de Moscou à l'autre. Dans les appartements de votre petit monde domestique, poussent des poètes frisés pour chambre à coucher. Que découvrir chez ces bichons lyriques ? Moi, on m'a appris à aimer à Boutriki. Alors, Boutriki, c'est le nom d'une prison dans laquelle Maïakovski était incarcéré à Moscou. Alors, que m'importent les soupirs devant la mer ? Moi, c'est d'un bureau des pompes funèbres que je suis tombé amoureux, et du Judas de la cellule 103, la cellule dans laquelle Maïakovski était enfermé. Et donc le poème se poursuit avec une partie qui s'appelle « Toi ».
Toi, tu es venu affairé et derrière le braillement, derrière la charpente, d'un regard, tu as deviné simplement le gamin. Tu l'as pris, tu l'as enlevé, et tout simplement, tu es parti jouer avec ce cœur, comme une fillette avec un ballon. Et dame ou demoiselle, chacune comme si c'était anormal, l'aimait, lui, une pareille brute, une dompteuse, probable, venue d'un zoo, probable. Mais moi, je suis ravie. Disparu le fardeau. J'ai bondi fou de joie, j'ai trépigné comme un indien à la noce. Tant j'étais gai, tant j'étais léger.
Et le poème se poursuit, et moi aussi. Le train, il file vers la gare. Moi, bien sûr, vers toi, et encore plus. J'aime attirer et transporter. Ainsi, moi, vers toi, attiré sans retour, dès que nous sommes séparés, dès que nous ne nous voyons plus.
N'effaceront l'amour, ni les querelles, ni les verstes. Il est réfléchi, corrigé, vérifié. Je lève mon poème au doigt de verre avec solennité et je le jure, J'aime, fidèle à jamais.
Voilà, alors, pour terminer, Elsa et Lily, donc, ont une vie extrêmement libre, bon, dans une époque où ça semble peut-être moins évident. Et on peut s'interroger, justement, est-ce que Lily et Elsa font partie de ce qu'on appellerait, bon, des femmes libres, des femmes féministes, par exemple. Alors, Lily Marcoux, donc, qui est à laquelle on emprunte beaucoup, hein, parce que Lily Marcoux, Huguette Bouchardot sont quand même les deux grandes biographes d'Elsa Triolet. Donc, Lily Marcoux, dans une biographie qui est malheureusement épuisée, hein, qui était parue en 1994, qui s'appelle Les yeux et la mémoire, chez Plon, elle évoque justement cette liberté de mœurs de Lily comme d'Elsa. Alors selon elle, elle n'est pas à mettre au compte de raisons idéologiques, féministes ou à cause d'une sexualité débridée. Alors voilà ce qu'elle écrit, ma foi. On comprend ça comme on peut. Leur démarche est bien autre. Il s'agit dans les deux cas d'une stratégie de conquête, de domination, surtout vis-à-vis de celui qu'on préfère, l'élu, d'une vie ou d'un moment, qui, fou amoureux, se voit impliqué dans toutes sortes de marivaudages. Voilà.
Voilà. Nous terminons ici cette émission et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour Elsa Triolet à Paris en 1924, c'est ça?
Voilà, à partir de 24. Oui. Montparnasse.
Oui.
Merci, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et on se quitte sur la musique de Alban Berg, toujours. Thank you.
Thank you.